Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, bienvenue. Oui, Nick Payne au microphone, très heureux d'être avec vous encore une fois cette semaine et avec nos invités que je vous présente dans un instant. Nous allons discuter aujourd'hui de la décision de la Cour d'appel sur la loi 21. Nous allons parler de François Legault et des Canadiens français catholiques, qui le sont tous d'après lui. Et nous allons parler également de Catherine Dorion et de la ministre Nathalie Roy, cette interpellation à partir de laquelle Mme Dorion a fait un montage qui a été très, très, très suivi, très vu sur les internets, comme on dit. On va en reparler. Puis de ça et d'autres choses, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, notamment aussi la victoire au Royaume-Uni de Boris Johnson, désormais champion du Brexit. On en parle dans un instant. Donc, avec d'abord, j'aperçois Frédéric Lapointe. Bonjour Frédéric Lapointe.
Bonjour.
Toujours un fidèle du Parti québécois, mais aussi fondateur de la Ligue d'action civique et homme d'idées et d'opinions que nous apprécions toujours beaucoup avoir ici avec nous. Bonjour. Et puis, c'est le Festival des Frédéric aujourd'hui parce qu'il y aura Frédéric Bérard au téléphone dans quelques instants, mais aussi Frédéric Bastien. Bonjour, Frédéric Bastien.
Bonjour.
Professeur d'histoire à Dawson. On parle beaucoup de vous ces jours-ci, non seulement parce que vous avez écrit La bataille de Londres, mais parce que vous avez écrit d'abord, je pense, sur... Vous nous avez annoncé que vous aviez porté plainte au Conseil canadien de la magistrature,
oui, voilà,
à l'endroit de la juge Nicole Duval-Essler, qui est bien sûr impliquée de très, très près, c'est le moins qu'on puisse dire, dans cette décision de cour rendue ces derniers jours-là, de laquelle on parle dans un instant. Et puis, William Corbatly est avec nous aussi, notre libéral en résidence. Bonjour, William Corbatly.
Bonjour. En passant, je siégeais comme secrétaire pour la Ligue, à un moment donné.
La Ligue d'action civique
oui,
de
oui,
Frédéric Bastien. La pointe. Bon, ça y est, je savais que je
oui,
me tromperais
de
Frédéric,
oui,
au moins une fois. Alors, bon, d'abord... parlons de ce qui est arrivé sur la loi 21 cette semaine, puis on va commencer par, est-ce que Frédéric Bérard est déjà en ligne avec nous? Est-ce que nous l'avons rejoint?
Ça, vous pouvez être sûr que je suis là.
Ah, vous êtes là, Frédéric Bérard. Alors, vous parlez sous contrôle de plusieurs Frédéric aujourd'hui. alors, vous êtes sous haute surveillance. Il ne faut pas faire déshonneur au prénom. Et puis...
qui est en infériorité numérique, je vous fais remarquer, par contre.
En effet, c'est vrai. Est-ce que vous êtes un bon catholique, vous, Frédéric Bérard?
On ne peut plus.
Bon, ben c'est parfait. Alors, nous allons communier ce matin. Est-ce que vous êtes...
Et se confesser aussi.
Oui, sans doute. Est-ce que vous êtes...
Ma fille s'appelle Ève, cela dit.
Bon.
Mais elle n'est pas baptisée, donc c'est un autre de mes paradoxes.
Ah, ben voilà, mais on n'aura pas d'Adam contre vous. Dites-moi, ce jugement de la Cour d'appel, cette décision rendue par la Cour d'appel cette semaine est intéressante. Le juge Robert Mainville est peut-être celui parmi les trois qui a une position un peu plus... c'est peut-être moins clair dans son cas qu'il est en désaccord sur le fond avec la loi 21, mais je ne suis pas certain de ce que je dis là, vous m'en direz davantage. Donc lui, il dit, tout comme la juge Dominique Bélanger, que quoi qu'on pense, de toute façon, on ne peut pas sursoir ou suspendre la loi puisque la disposition de dérogation a été utilisée par le gouvernement. Et par ailleurs, le juge Mainville, lui, dit aussi que à sa connaissance, les grandes religions présentes de façon importante au Québec, là, ne prescrivent pas de façon obligatoire le port de certains signes religieux comme obligation de la foi. Puis enfin, bien, il y a la juge, évidemment, Nicole Duval-Essler, qui, elle, dont Frédéric Bastien nous avait un peu laissé voir les opinions qui, sans surprise, explique que s'il n'en avait été que d'elle, on aurait suspendu l'application de la loi parce que, dit-elle, ça ne troublerait pas l'ordre public que de permettre à des enseignantes portant le voile d'enseigner. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Est-ce que je me trompe quelque part? Et vous, qu'est-ce que ça vous dit, cette décision, Frédéric Bérard?
Plusieurs petites observations. Hein. Premièrement, j'ai quand même été surpris que Duval maintienne son point de vue en quelque sorte, parce qu'avec la plainte que Frédéric Bastien lui a plaquée dans les dents dans l'intervalle, je me serais attendu à peut-être un petit peu plus de réserve puis essayer de faire croire que non, vous voyez, c'est la preuve que c'est pas vraiment ce que je pensais, puis je n'étais pas partial. C'est très rare aussi de voir trois motifs complètement distincts comme ça à la cour d'appel.
Rédigés séparément, hein, c'est ça? Présenté,
oui, et ça, je pense que c'est justement la plainte de Bastien là, qui est venue provoquer ça, probablement. Parce que autrement, peut-être qu'il y aurait eu... Je pense que Bélanger aurait été du côté de Duval. Là. Je dis ça, je dis rien, remarquez bien, là, on est dans l'hypothèse, mais c'est clairement elle là, qui a l'air la plus frileuse en rapport à ça. D'autres observations rapidement. Ah oui, ben là, évidemment, ça, c'est un ticket hein, pour la Cour suprême. Habituellement, quand il y a une dissidence forte comme celle-là et quand la majorité ne s'entend pas sur les motifs. Autre chose aussi, par rapport au fait que puisqu'il y a une dérogatoire, on ne peut pas suspendre. Ça, je le disais avec respect, mais je pense que c'est une erreur en droit. Le droit n'est pas très, très clair jusqu'à maintenant parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'utilisation de la dérogatoire. Il y en a eu au Québec dans les années 80 en réaction à l'adoption de la Charte canadienne. Mais celle-ci, sur une suspension, n'a jamais été déterminée. Moi, je suis clairement d'avis, puis je peux me tromper, remarquez bien que la dérogatoire limite la chose sur le fond, mais non pas sur la forme, c'est-à-dire sur la suspension dans ce cas-ci. Et puis, l'autre affaire aussi qu'il ne faut pas oublier, ben, c'est sûr que le fardeau était très élevé. Hein. Duval a laissé sous-entendre le contraire. Mais quand on veut demander la suspension d'une loi pour motif d'inconstitutionnalité, faut se lever de bonne heure. Et c'est ce que le juge Mainville et la juge Bélanger aussi ont répondu. Puis une dernière petite observation. Je pense que Mainville a écrit un passage qui est assez intéressant en référence sur la jurisprudence en Europe qui permet en fait de restreindre la possibilité de porter un signe religieux, même dans l'espace public, dans certains cas, et ainsi de suite. On voit qu'il se réfère beaucoup à ça. Ceci, je pense qu'il est un peu déconnecté avec, encore une fois, avec la jurisprudence plus canadienne, plus même américaine, dans quelque sorte. Et la dernière affaire, quand il dit, ben, vous comprenez, hein, c'est pas toutes les religions qui forcent le port du signe, donc, de ce fait-là, la loi 21 pourrait ne pas être discriminatoire. Ça, je vais le dire avec un peu moins de respect. Ça, franchement, c'est digne d'une chronique... d'un certain journal qu'on connaît. Là.
Dans le Journal de Montréal, ma foi.
Mais c'est franchement ridicule comme argument parce que ces gens, évidemment que c'est pas la religion comme telle ne t'oblige pas à faire X ou à faire Y. Mais si on étudie un tant soit peu la jurisprudence en matière de liberté de religion, il suffit d'avoir une croyance sincère, notamment en ce qui a trait au port d'un signe religieux. Et si cette croyance sincère est démontrée, le reste en fait bien ce que t'en veux. Alors ça, là-dessus, là, ça, c'est un truc pour se faire planter en Cour suprême, je suis à peu près certain.
Ce qui a fait faire, c'est ce principe. C'est à partir de ce principe-là qu'on avait vu cette hurluberlu se réclamer du pastafarisme avec une passoire sur la tête.
C'est une croyance sincère, tout est permis.
Ça peut interpeller toutes sortes de cases de bain, on est d'accord avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que dans un cas comme laisser faire le plat à spaghetti, là, il y a quand même 300 courbaties, pour le dire mieux que moi, mais de ce que je comprends, il y a 300 manières de pratiquer l'islam, ou à tout le moins 200, mais je pense que c'est 300. Alors, si on prend juste ce cas très précis, on est au-delà de... La croyance sincère est facile à être démontrée, et puis là, visiblement, Mainville a pris une faction, si je peux dire, et a décidé que ça allait être comme ça.
Oui, c'est ça. Alors, l'extrait en question est le suivant, j'ouvre les guillemets. « La grande majorité des principales religions pratiquées au Québec, dit-il, ne semble pas, à première vue du moins, faire du port de signes religieux au travail une exigence absolue de la foi. » Bon, c'est un de ses arguments, en effet, et donc vous n'êtes pas d'accord avec ça. Dites-moi plus...
Ben, parce que ça colle sur rien du tout. Là.
On pourrait dire le contraire, c'est ce que vous dites.
Et puis, ça colle même pas, en fait, sur la jurisprudence européenne, ironiquement, là.
Maintenant, de façon plus large, Frédéric Bérard, alors là, j'ouvre un boulevard. Là, on n'est pas obligé d'aller très parler de ça pendant une heure, mais enfin, quand même, ceux qui voient d'un bon œil ou appellent ou expliquent les mouvements politiques vers le populisme un peu partout en Occident réfèrent souvent au principe, au concept du gouvernement des juges, c'est-à-dire ce pouvoir des juges qui prend le dessus sur celui des parlementaires, en quelque sorte, qu'on voulait à l'origine comme étant justement une sorte de contre-pouvoir, un peu comme il y a aussi celui des médias, par exemple, ou de diverses institutions, pour éviter la tyrannie de la majorité dans un système démocratique comme le nôtre. Est-ce que, au vu de ce qui vient de se produire jusqu'ici sur la loi 21, vous trouvez qu'on est dans un, dans l'esprit du gouvernement des juges ou on reste dans une forme d'équilibre? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous?
Bien, une réponse en deux volets. Premièrement, il ne faudrait pas oublier que les chartes, là, puis évidemment, Frédéric Bastien ne dirait peut-être pas la même chose que moi après son bouquin sur la bataille de Londres, mais...
On va lui en parler dans un instant.
En théorie, ce ne sont pas les tribunaux hein, qui ont demandé ces chartes-là. Voilà, mais ça, je dis, là, ça rentre de plein poids avec la thèse de Bastien, mais là, qu'est-ce que je vous dis? C'est le constituant qui a décidé de limiter ses propres pouvoirs, de limiter les pouvoirs de l'État en conséquence, en donnant aux juges le soin d'interpréter des termes aussi vagues que droit à la liberté. Pardon?
Pas le Québec, M. Bérard.
Mais s'en fout, là.
Ah, ben, la dernière fois que j'ai regardé, la Charte québécoise, elle est née en 76, elle est entrée en vigueur en 76, donc avant la Charte canadienne, elle protège précisément les mêmes droits et libertés que vous dénoncez parfois.
Finissez votre point de vue, puis ensuite, on va passer la rondelle à Frédéric.
Non, mais c'est parce que ça, c'est intéressant comme truc, là, parce qu'on fait abstraction du fait que la Charte québécoise prévoit exactement les mêmes choses, mais bon, avec une jurisprudence qui est similaire, mais peu importe. Pour le deuxième volet, où je trouvais ça intéressant et où je trouve encore ça intéressant en quelque sorte, c'est qu'il y a une espèce de... Comment je dirais? On amène de l'eau au moulin à une discussion qui peut être, tant qu'à moi, très intéressante sur quelle est la place des signes religieux, quelle est la place de la laïcité, qu'est-ce que la laïcité, et ainsi de suite. Où je pense que Mainville a fait erreur avec respect, c'est quand il a mal évalué la portée de la liberté de religion. Ce qui aurait été plus intéressant, à mon sens, c'est de dire... Oui, cette loi-là, manifestement, est discriminatoire et viole la liberté de religion, ce qui, selon moi, en droit, fait aucun doute. Mais par la suite, c'est pas parce qu'une loi est discriminatoire qu'elle est nécessairement invalidée. C'est pas parce qu'une loi viole la liberté de religion qu'elle est nécessairement invalidée. Il y a des tonnes d'exemples de ça. Pourquoi? Parce qu'on passe à la deuxième étape ensuite, qui est la suivante. Est-ce que cette violation-là, par exemple, de la liberté de religion ou du droit à l'égalité, se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique? Et là, c'est une évaluation qui est fort intéressante et qui amène justement la question suivante. Quelles sont les valeurs? Quels sont les paradigmes qu'on souhaite adopter dans une société? Et là, vous allez me répondre, oui, mais ça va quand même demeurer au juge de déterminer qu'est-ce qu'ils en feront. Je sais bien, mais ça, c'est la job que le constituant leur a demandé.
C'est-à-dire qu'en même temps, on convoque le politique à nouveau, là, en quelque sorte, où on ouvre un débat sur
puis oublions pas qu'il peut y avoir une espèce de dialogue avec les cours aussi. Là, avec la dérogatoire, c'est sûr que ça complique un peu la chose, mais tout ça pour dire que je pense très sincèrement qu'un débat intelligent sur la laïcité pour ce qu'elle veut dire, tant qu'à moi, la loi 21, malheureusement, ce n'est pas de la laïcité comme telle, parce que la laïcité devrait être de la neutralité religieuse, mais on pourrait avoir un débat brillant là-dessus où il y a plusieurs thèses qui se confrontent. Et ça, moi, depuis le début, c'est ce que je dis, depuis le début, avant même la Charte des valeurs, est-ce qu'on peut discuter intelligemment de ces questions-là? Je suis pas sûr qu'on le fait parce que politiquement, c'était trop tentant de casser du sucre sur certaines religions, une en particulier. Mais pour le reste, est-ce qu'on pourrait faire ce débat-là dans le cadre, justement, d'un débat judiciaire? Moi, je pense que oui, puis c'est ce que les tribunaux, ultimement, auront à faire s'ils sont capables de contourner la dérogatoire.
On en parle avec Frédéric Bastien dans un instant, mais dites-moi, et avec William Corbatly, tout le monde trépigne. En terminant, Frédéric Bérard, si je comprends bien, finalement, vous êtes... mi-figue, mi-raisin, vous trouvez que à la fois l'argument de la clause dérogatoire ou de la disposition de dérogation et celui de la prescription par les religions ou non du port de signes religieux, dans les deux cas, vous ne les trouvez pas très bons, ces arguments-là, donc il ne reste pas grand-chose. Au fond, vous auriez probablement tranché de la même façon que la juge Duval-Essler, vous?
Pas nécessairement, parce que même après ce que je viens de dire, le fardeau est excessivement lourd hein, sur les épaules de celui qui demande la suspension, parce qu'on doit démontrer l'urgence, on doit démontrer que les inconvénients sont de notre côté, et ainsi de suite.
Alors, est-ce que c'est le principe qui intervient, qui s'appelle... on a parlé de présumer de la constitutionnalité de la loi. Ouais. Moi, j'apprenais quelque chose avec ça. Ça, c'est... Ouais. Est-ce que c'est à ça que vous référez, là?
Oui, bien, absolument, parce que dans notre régime juridique, dans le système de Westminster de manière large, contrairement à d'autres pays d'Europe où il y a des contrôles de constitutionnalité a priori, au Canada, au Québec, ça tant qu'à moi, c'est un grave problème, les lois sont adoptées et ce sera, par exemple, aux citoyens éventuellement de faire la preuve de son inconstitutionnalité. Or, sur le fond, déjà qu'il y a un fardeau, on peut appeler ça le 50+1, mais d'un point de vue suspension, là, le fardeau est énorme parce qu'on doit justement c'est un peu le corollaire. On doit présumer que les lois sont constitutionnelles, sinon on n'en sort pas. Or, c'est un peu ce que Mainville nous dit. Et moi, pour répondre à votre question, je trouve pas que c'est une mauvaise décision de ne pas suspendre. Je dis seulement que les motifs invoqués par Mainville, à mon avis, ne sont pas les bons. Ça aurait été plus intéressant de dire c'est clair que cette loi-là est discriminatoire et viole la liberté de religion. Prima facie, ça semble évident. Cela dit, il y aura une discussion, ou il devrait y avoir une discussion à savoir qu'est-ce qu'une société libre et démocratique ferait avec une violation comme celle-là. Et donc, ce n'est pas évident que la loi 21 est inconstitutionnelle en soi. Moi, c'est plutôt sous cet angle-là que je l'aurais pris. Surtout qu'il y a d'autres arguments qui sont soulevés ici en matière de fédéralisme, en matière d'autres arguments de charte et ainsi de suite. Donc, tout ça pour expliquer que je pense que juridiquement, c'est intéressant tout ça. Mainville a lui-même fait, tant qu'à moi, une duval de lui-même en quelque sorte, parce qu'il a clairement dit ce que lui-même écrirait au fond. Puis ce qu'il écrirait au fond, c'est « Puisque les religions ne vous obligent pas à porter un signe religieux, votre liberté de religion n'est pas violée. »
Voilà.
Ça, je suis désolé.
On vous suit bien.
Fois, on apprend le contraire.
On vous suit bien, Frédéric Bérard. Vous êtes vraiment capricieux, mais ça fait rien. On a compris vos, vos nuances. C'est toujours un plaisir de jaser avec vous. On vous souhaite un beau temps des fêtes, le solstice, Noël, appelez ça comme ça vous, comme ça vous chante.
Je serai dans le sud avec les Latinos en pleine guérilla. Alors, si je ne reviens pas, ça aurait été un plaisir de participer à votre émission, Nick Payne, et j'ai vu sur Facebook qu'il y aura un nouveau Payne éventuellement. Alors, la meilleure des chances et félicitations.
Ah, merci.
Et l'ensemble des compliments à la maison.
On prépare la relève. Merci beaucoup. Alors, bon voyage, bon reportage là-bas.
Au revoir,
salut. Frédéric Bastien, j'ai pas dit en présentation tout à l'heure que vous êtes. Allez-vous nous l'annoncer, peut-être candidat à la chefferie du Parti québécois?
J'annoncerai quelque chose éventuellement, mais ça sera pas aujourd'hui.
mais quelle réponse étonnante! Donc, vous annoncerez éventuellement que vous êtes candidat à la chefferie du Parti québécois.
C'est quelque chose.
Ah bon, quelque chose. C'est ce que je comprends. Alors, bref, votre démarche, quand même, s'inscrit un peu dans. En droite ligne avec votre pensée politique, est-ce que vous voudriez mettre de l'avant, si jamais vous êtes candidat à la chefferie du Parti québécois, mais je termine, j'arrête de parler de ça, je vous le promets, parce que vous êtes quelqu'un justement qui en appelle à ce qu'on modère un peu sur le gouvernement des juges, là, justement,
oui,
et qu'on revienne à... Parce que pour vous, c'est une façon pour le Québec aussi sortir là, du multiculturalisme canadien et puis du chartisme canadien. C'est une façon pour le Québec de manifester sa différence, sa distinction.
Oui, absolument. Je pense qu'on est dans un beau cas du gouvernement des juges fédéraux et contrairement à ce que M. Bérard disait il y a quelques instants, c'est pas vrai que les juges de la Cour suprême en 1981-82 n'a pas joué un rôle. Elle s'est prononcée sur une question politique. Il y a deux juges qui ont parlé avec le pouvoir exécutif alors que la Cour suprême entendait la cause du renvoi sur le rapatriement qui a privé le Québec de son droit de veto.
Donc, on parle du rapatriement
de la
Constitution en
82. Qui a donné naissance à la Charte canadienne des droits et libertés qui est utilisée aujourd'hui contre la loi 21. Quand M. Bérard dit que c'est très clair que c'est une loi discriminatoire, il se fie à la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, des juges fédéraux qui interprètent la Charte canadienne des droits et libertés qui nous a été imposée sans notre consentement. Et là, on dit, regardez, les juges ont dit que c'est de la discrimination. Ah, attention! Il y a toujours une limite au droit dans une société. Moi, si je suis dans un cinéma, je ne peux pas me mettre à dire « au feu » s'il n'y a pas d'incendie. Et là, tout le monde se bouscule vers la sortie en panique. Là, il y a des blessés. Puis là, je dis « ah, c'est ma liberté d'expression garantie par la charte ». Non, non, attention. Il n'y a aucun droit, il n'y a aucune liberté qui est absolue. Sinon, ça serait le chaos.
Mais la distinction importante ici, c'est que vous dites la jurisprudence, fort bien, mais là, on parle de la jurisprudence canadienne. Évidemment, Bérard, lui, est juriste, il fonctionne dans les paramètres légaux. Alors, en ce moment, nous sommes dans le Canada.
Mais c'est parce que là, ce sont... Autrement dit, la vraie question dans
vous faites de la politique, en fait.
En ce moment, je fais de la philosophie politique. Dans ce que je vous dis, c'est que la vraie question, c'est où s'arrêtent les droits et qui trace la ligne? Qui a l'autorité de dire « voilà où s'arrêtent les droits » parce qu'il n'y a aucun droit individuel qui est absolu. Dans une société, ça prend des normes collectives, ça prend des règles collectives. Et une société ne peut pas fonctionner si on n'est qu'une somme d'individus avec des droits et libertés. Ça veut dire qu'il n'y a plus de société. Et donc, une société a besoin de repères, a besoin d'être ancrée dans quelque chose. Et les élus de l'Assemblée nationale sont, à mon sens, les mieux placés, avec tous leurs défauts malgré tout, mais ils sont quand même les mieux placés pour tracer la ligne des droits et libertés, comme c'est le cas, par exemple, dans un système comme en Australie, comme en Grande-Bretagne, qui ne sont pas des tyrannies, qui ne sont pas des pays où on ne respecte pas les droits et libertés, mais où les juges n'ont pas le pouvoir d'invalider les lois votées par les élus de la nation. Et malheureusement, au Canada, on a complètement... on s'est éloigné de ce système-là avec... ce qui nous a été imposé...
Depuis 82.
Alors, M. Bérard pourra dire tout ce qu'il veut, là, mais on ne sort pas de ça.
Vous amenez cet éclairage-là. Bill Corbatley a levé la main presque avant le début de l'émission. Il a quelque chose à dire. Déjà, ce que vous venez d'entendre, vous, William Corbatley?
Bon, c'est complètement en désaccord, c'est sûr. Là, au niveau juridique, ça ne tient pas la route. Tout ce qu'on dit ici par rapport à l'histoire, à ce qui s'est passé, a zéro valeur juridique. Que le Québec ait signé la Constitution ou non.
Mais ça a une valeur en termes de philosophie politique, comme le dit Frédéric Bastien.
Je dis au niveau juridique. Mm-hmm. Philosophie, on peut en parler. Peut-être il a raison, peut-être pas. On ne sait pas. Ça dépend de vous. Vous êtes de quelle école de philosophie politique? Est-ce que l'école républicaine, l'école qui est multiculturaliste à l'extrême? Alors, mais ça, c'est juste... Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là.
Mais ça fait partie du débat en même temps, si on veut débattre, en tout cas.
Je comprends, mais juste par rapport à la dernière décision
de la Cour d'appel.
De la Cour d'appel, exactement. J'aimerais, bon, bien sûr, je ne veux pas trespasser sur le domaine de Frédéric, là, Bérard, je veux dire, il est l'expert en la matière.
Les gens de droit sont toujours pleins de déférence et de respect.
Les gens c'est ça, mais voilà, c'est ça. Ce sont les juges, ce sont des demi-dieux qui nous gouvernent maintenant, tout le monde à genoux.
Allez, okay. Commettez, transgressez.
En tant que juge de la loi, oui. Alors, mais j'aimerais souligner dans la décision, en fait, c'est qu'il y avait un certain consensus sur le fait que ces femmes-là qui ont déposé cette plainte-là ont subi un préjudice irréparable, mais à différents niveaux. Ça, il y avait genre un quasi...
Selon le juge, tous les juges.
Alors, sans aucune exception.
Oui, oui, même le juge Mainville.
Exact, exact. Mais j'aimerais terminer mon commentaire là-dessus avec le paragraphe 101 du même jugement. C'est la juge Bélanger qui a dit le prochain, c'est ces trois lignes. En l'espèce, ce que la clause dérogatoire impose aux tribunaux, c'est de laisser à leur sort, à cette étape du dossier, des femmes diplômées, prêtes à travailler, qui, pour l'unique raison qu'elles portent le voile, se sont vues refuser l'accès à un emploi pour lequel elles détiennent toutes les compétences.
En effet, voilà. Alors la juge Bélanger dit bien qu'elle est obligée de ne pas suspendre la loi à cause de la clause dérogatoire, mais oui. Elle déplore...
Je suis un peu d'accord avec elle par rapport à ça, là, surtout sur la suspension, oui, parce que c'est dans le sens qu'on a besoin d'un fardeau qui est pas mal très élevé pour suspendre une loi avec un débat de société qui est très large.
Frédéric Lapointe, qui écoute sagement depuis tout à l'heure, mais qui est aussi caché derrière un écran, c'est pour ça que je réfère moins. Bonjour, Frédéric Lapointe.
Bonjour.
Est-ce qu'on balaie du revers de la main trop facilement cet argument du juge Mainville? On sait que Frédéric Bérard n'est pas du tout convaincu par cet argument de la prescription par les différentes foi du port de signes religieux. Parce que ce que vient dire William Corbatley nous réfère un peu à ça, c'est-à-dire est-ce qu'on discrimine vraiment des gens ou ce sont ces gens-là qui se discriminent eux-mêmes en faisant du port d'un signe religieux une obligation absolument incontournable?
Bien, je pense que l'argumentation de Frédéric Bérard est intéressante dans son deuxième volet. Sur le premier volet, est-ce que les juges vont considérer qu'il y a là discrimination ou non? Je pense qu'il est assez probable qu'ils considèrent qu'il y a discrimination. Est-ce qu'il s'agit d'une limite raisonnable dans une société libre et démocratique? Là, on ouvre un autre champ d'arguments et je m'étonne, cela dit, que les juges soient déjà entrés dans ce type d'arguments en soupesant quel est le préjudice non seulement pour un individu en particulier, mais disons l'ensemble des individus qui pratiquent une religion. Et au fond, ce qu'ils se demandent, c'est est-ce que c'est une proportion très importante des gens qui pratiquent une religion qui sont touchés? Sous-entendu, ben, il faut soupeser quel est le préjudice par rapport à l'effet recherché par la loi droit et il supposait ça. Quand on est rendu dans le deuxième volet que souligne M. Bérard, on n'est plus tellement dans le juridique, là. On est dans le politique et c'est pas pour rien qu'il y a une Cour suprême, que la Cour suprême prend des décisions qui s'accrochent à des arguments juridiques ou des arguments constitutionnels, mais ce sont des actes qui sont la plupart du temps très significatifs politiquement. Le renvoi sur la loi sur la clarté en était un, hein, où il y avait
sur
pas...
Sur la clarté référendaire,
la clarté référendaire de Stéphane Dion. Et tout le monde aurait pu s'attendre à ce que la Cour suprême dise « Ben oui, le gouvernement fédéral a raison de vouloir enfermer le Québec. »
Et c'est pas ce qui est arrivé, en fait.
C'est pas ce qui est arrivé. Donc, je pense qu'il y a un réel débat chez les juges au sujet de la contrainte qu'ils vont considérer légitime sur des parlements et un parlement en particulier celui de l'Assemblée nationale du Québec dans une province qui risque de faire sécession. Je pense que les juges vont être extrêmement prudents avant de conclure pour le deuxième volet de l'argumentation que la loi de l'Assemblée nationale n'est pas raisonnable dans une société libre et démocratique.
Alors, vous n'êtes pas, vous, dans la cour de Pise, la Cour suprême qui penche toujours du même côté quand on parle du Québec parce que c'est le Canada. Puis,
je pense qu'il y a des juges qui, manifestement, sont très militants. La juge en chef de la Cour d'appel l'a démontré, Frédéric l'a bien démontré. Dans son jugement, ça transparaît. Et il y aura certainement des juges militants à la Cour suprême, mais ils sont neufs. Et je pense qu'avant de créer une crise sociale et potentiellement constitutionnelle sur cette question-là, je pense que la Cour suprême va être prudente.
Frédéric Bastien, j'ai perdu le fil de mon idée, mais enfin, vous parliez à l'instant, aidez-moi Frédéric Lapointe, vous venez de parler, oui c'est ça, la Cour suprême, alors vous, est-ce que vous trouvez que nécessairement, si on se rend là, la loi 21 va être... Qu'est-ce que vous anticipez pour la suite des choses? Oui, je retrouve ma question, en fait. La juge Duval-Essler ne s'est pas récusée. Et pourtant, de très nombreux observateurs, souvent modérés, je pense à Benoît Pelletier, ancien ministre du gouvernement Charest, mais qui est constitutionnaliste, qui enseigne à l'Université d'Ottawa... Frédéric Bérard, qui est contre la loi 21 qu'on vient d'entendre, lui aussi trouvait que votre propos était justifié, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des apparences problématiques et elle ne s'est pas récusée finalement. Est-ce qu'on a été sauvé par la cloche, là? Est-ce que...
Moi, je suis convaincu que ma plainte a été un rappel à l'ordre pour la Cour et que ça a influencé la juge Bélanger, qui au départ avait l'air d'être beaucoup plus du côté de la juge Duval dans ses commentaires lors de l'audience. Mais donc, moi, je pense que ça a influencé le cours des choses.
Les choses. Hein,
ouais. Oui, c'est ça. Et ce sont, tu sais, les juges fonctionnent dans cet univers politique. Pour moi, ça, c'est très clair. Et je voudrais revenir à ce que M. William disait tantôt. Alors,
absolument.
Trois juges fédéraux ont dit que la loi 21 créait des préjudices aux plaignantes. Alors, ben voilà, couchons-nous. Tout le monde se couche, hein, à genoux devant les trois juges fédéraux qui ont dit qu'il y avait des préjudices. Des juges qui n'ont aucune légitimité démocratique. Alors, on a les élus de l'Assemblée nationale qui ont voté cette loi. Et là, il y a trois juges qui disent non, non, en vertu de la Charte des droits qui a été imposée au Québec sans son consentement.
Vous discriminez.
Vous discriminez. Alors, ça va être le dernier fin mot de l'histoire. Ben voyons donc.
Frédéric Lapointe, ça vous fait réagir, ça?
Ben, je pense que tout un chacun peut constater que lorsqu'une loi est adoptée, elle peut poser préjudice à l'un ou à l'autre. On augmente les impôts, hein, des riches qui paient plus d'impôts, on fait un zonage agricole, il y a des gens qui ne peuvent pas... Il y a toujours un préjudice. La question, c'est est-ce que ce préjudice est suffisant pour qu'une Cour suprême dise à une province « Votre loi est invalide ». Non seulement elle est invalide, mais même si vous avez recours à la clause nonobstant, nous allons trouver un moyen de le contourner. Et il faut savoir que la clause nonobstant, qui est en ce moment l'objet d'un battage publicitaire négatif au Canada...
Depuis très longtemps.
C'est dans l'acte de naissance de la Charte des droits et libertés. Et non, il n'y aurait pas eu de charte, ni de rapatriement de la Constitution, n'eût été de l'introduction de cette clause, parce que les provinces canadiennes ne l'auraient pas acceptée, pas simplement le Québec, mais les 9 autres provinces canadiennes.
Parce
donc,
que
on peut pas faire abstraction.
Justement, on a décidé de ça.
Ben ouais. Voilà. Donc, je pense que la Cour ne peut pas faire abstraction de ça. Il peut y avoir des changements d'humeur de la population dans une direction ou dans une autre, mais c'est un acte extrêmement significatif que de récuser une loi d'un Parlement qui a utilisé effectivement la clause dérogatoire.
On revient dans un instant sur ce sujet parce qu'on va parler du Brexit et ça recoupe un peu la question du populisme et du gouvernement des juges et tout le reste. Mais pour l'instant, dans quelques secondes, nous rejoignons Steve Fortin qui va nous parler, de, entre autres, de Catherine Dorion, cette vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. À tout de suite. Alors, il est chroniqueur au Journal de Montréal, ce qui fait donc de lui quelqu'un qui est du côté sombre de la force, d'après, en tout cas, celle dont on va parler, Catherine Dorion. Bonjour, Steve Fortin, vous êtes quelque part sur la route, je crois?
Oui, c'est ça, quelque part entre Québec et Matane,
Ah bon, vous n'êtes pas sur le chemin du côté sombre. Dites-moi, est-ce que... Alors, vous avez parlé, vous, cette semaine, de cette vidéo de Catherine Dorion. Je rappelle ça au bon souvenir de nos auditeurs. Donc, la députée de Québec solidaire a fait une vidéo, un joli montage très, très, très bien fait, là, très professionnel, comme elle et son équipe en sont capables, dans lequel elle montre que, lors d'une interpellation à l'Assemblée nationale, alors qu'elle s'adressait à la ministre Nathalie Roy sur l'aide financière de 50 millions de dollars accordée par le gouvernement à certains médias, Mme Dorion demandait à Nathalie Roy pourquoi était-il opportun de financer à la fois l'information et l'opinion. La position de Mme Dorion étant à l'effet que les gens d'opinion, de chronique, de blog, comme Steve Fortin, comme vous, Steve Fortin, par exemple, ne devraient pas bénéficier de ces sommes-là. Et alors, le montage nous montre une Nathalie Roy qui patine. C'est franchement désolant. Mme Roy parle de tout et de rien, complètement à côté de la question pendant de longs moments. Et Catherine Dorion nous explique que ces quelques extraits montrent la teneur, finalement, de tout l'échange qu'elle a eu avec Nathalie Roy. Et Mme Dorion dit que jamais la ministre n'a répondu à sa question. Or, Steve Fortin, vous avez regardé l'interpellation au complet. Vous dites que c'est faux.
Ben oui, écoute, puis là, maintenant, je suis content parce qu'on en parle beaucoup depuis. Et s'ajoute à ça deux données qui sont quand même intéressantes ce matin. Premièrement, la réponse en entrevue de la ministre Roy au micro de mon collègue Trisac.
Qui dit que c'est un montage malhonnête, en fait.
Ben là, je veux dire, quand la ministre Roy s'est expliquée, on comprend encore un peu mieux. Oui, moi, je m'étais tapé d'abord les quelques minutes sur son compte YouTube. C'est juste 3 minutes. Ensuite, on m'a envoyé un segment de 45 minutes qui traitait du sujet de l'interpellation, qui n'était pas la place des chroniqueurs, mais qui était bien la qualité de l'information. Et n'oublions pas que, à moins que je me trompe, mais le sujet de l'interpellation est bel et bien choisi par la députée qui interpelle. Et là, Mme Roy l'expliquait bien ce matin, Mme Dorion a voulu faire bifurquer ça. Bon, pas de problème, mais il y en avait des réponses. Et le plus drôle là-dedans, moi, quand j'entends ça, quand je dis faut pas que les chroniqueurs de Québécois soient inclus là-dedans, merci à mon collègue, le libéral Jonathan Trudeau, ce matin, qui, dans son segment éditorial à sa chronique radio, rappelait une chose. C'est drôle, mais cette loi-là, cette espèce de 50 millions-là, ne peut pas s'appliquer aux chroniqueurs du Journal de Montréal, car ils sont tous pigistes. J'en connais pas un, moi, qui est employé de Québécois. Donc, que ce soit Martineau, Bocoté, Jonathan Trudeau ou moi-même, j'en connais pas qui soit un employé. Donc, ça s'applique pas à des gens comme nous. Donc, ça s'appliquerait à qui? Ça s'appliquerait aux chroniqueurs d'opinion, aux éditorialistes de l'OBNL ou la presse maintenant. Ça s'appliquerait aux gens du groupe Capital Média. Je veux dire, juste, des fois, j'ai plutôt l'impression que Catherine Dorion a un sérieux problème avec un groupe média en particulier.
Bon, là, je vous pose une question. Je vous pose une question facile, justement. J'amène de l'eau à votre moulin. Si vous aviez, vous et l'autre, les autres que vous venez de nommer, tous étaient des chroniqueurs de gauche et d'extrême gauche, est-ce que Catherine Dorion tiendrait le même propos aujourd'hui sur l'opinion versus l'information, d'après vous?
Là-dessus, par exemple, ça, je pense qu'elle croit sincèrement, et là-dessus, c'est quand même drôle, parce que dans sa réponse, elle dit « Ouais, ça a l'air que je viendrais de me rendre compte que des gens comme moi, je ne ferais pas partie de ça. » Déjà, je faisais pas partie de ça. Puis deuxièmement, c'est un peu con, parce que moi, je suis du même avis que Catherine Dorion là-dessus. Personnellement, je crois aussi que ces fonds-là devraient être réservés là où on en a le plus besoin, c'est-à-dire aux salles de nouvelles et à ces ressources-là. Mais pas que ça.
Alors, vous trouvez son propos recevable, en fait, là, sur la question de l'opinion contre l'information. Faut d'abord privilégier, c'est du côté de l'information plus objective que les besoins sont criants.
Non seulement ça, mais il faut toujours continuer à faire aussi la pédagogie de ce que c'est une salle de nouvelles. Et ça, Mme Roy le faisait dans son interpellation, puis c'est toujours important de le faire. C'est pas tout le monde qui comprend exactement où se situe l'éditorialiste dans l'échiquier d'une salle de nouvelles. Et à un moment donné, j'ai été d'accord une fois avec André Pratt, c'est quand il avait expliqué dans un de ses éditoriales pour justifier que son journal prenait position pour le Parti libéral, ce qu'il faisait de façon systématique, mais il disait ceci est la position de la page éditoriale, et il y a un mur de Chine qui existe entre la page éditoriale et les nouvelles. Et le côté plus objectif.
André Pratt, évidemment, du journal La Presse anciennement, devenu sénateur et peut-être prochain chef du Parti libéral. On ne sait pas.
Mais, tu sais, il faut le faire, ça. Puis là-dessus, on était d'accord. Mais là où vraiment, là, pour moi, ça devient complètement un peu surréaliste, tout ça, c'est le montage qui a été fait. Il ne rend pas du tout justice à ce qui s'est passé là. Et je veux dire une chose aussi que Mme Roy a révélée ce matin, parce que trop souvent, ça arrive, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La collègue de Catherine Dorion se lève en chambre et elle dit « Moi, nous, les femmes en politique, on souhaite trop souvent des messages haineux et tout ça. » Mais par son montage fallacieux, ce qui s'est produit, c'est que là, Nathalie Roy, elle-même, elle l'a dit, des dizaines de messages haineux, des menaces de mort, on le sait quand on se frotte à une petite partie de l'extrême-gauche, c'est très dangereux. Et là, ben voilà ce qui se produit. J'en sais quelque chose, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Là, à un moment donné, il va falloir qu'on se questionne aussi là-dessus, parce que le montage était fallacieux. Je suis plus tout seul qui le dit maintenant, puis il n'y a plus juste des gens de Québécois qui défendent ça. Correct, elle voulait faire parler d'elle, elle a gagné de ce côté-là, on parle d'elle.
Mais je rappelle que quand Catherine Dorion, parce que le temps nous presse, Steve Fortin, quand Catherine Dorion a mis son montage en ligne, vous l'avez célébré, vous l'avez salué, vous trouviez ça formidablement révélateur et bien fait. C'est donc dire que ça révélait quand même quelque chose qui vous dérange, vous, ces députés qui parlent pour ne rien dire dans des interpellations. Ça existe quand même, ça.
Oui, le filibuster, là, c'est cette espèce de technique qui pendant laquelle on fait du temps. Attention, là, je ne dis pas que pendant ces deux ans-là, à un moment donné, Nathalie Roy semblait pas faire du temps, mais dans son vidéo de 7 minutes, elle donne à peu près 65 secondes de temps où elle coupe des morceaux très, très précis. Puis je vais vous le dire, là, parce que je suis pas le premier à le dire ce matin, je l'entendais à la radio à une autre antenne, et Nathalie Roy s'en désolait elle-même, elle avait l'air d'une tarte dans cette vidéo-là, ça ne rend pas justice à ce qui s'est passé.
En effet. Steve Fortin, on vous laisse cheminer, non pas politiquement, mais sur la route. Et bon temps des fêtes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir.
À tous vous autres. Et c'est une belle émission que vous faites. Puis je dis salut à tous vos collaborateurs aussi.
C'est un plaisir. Merci à vous. À la prochaine. Tout le monde avait quelque chose à dire là-dessus. William Corbatli, vous avez appuyé, vous, Steve Fortin.
Oui, en fait, c'est que parce qu'il faut être clair et juste là-dessus, là, c'est que le problème, c'est pas le fond du message de Catherine Dorion, c'est son montage. Parce que si moi et Steve Fortin et plusieurs d'autres personnes qui scrutent les choses jusqu'au bout, là, on avait l'impression que Nathalie Roy n'a aucunement mentionné le mot chroniqueur. Catherine Dorion dit plus tard que c'est pendant. Elle a dit que c'est pendant les 10 premières minutes. Mais là, l'impression.
Ça dure deux heures, hein, une interpellation.
L'impression du public, c'est que Nathalie Roy n'a aucunement mentionné le mot chroniqueur. alors que ce n'était pas vrai. Alors, c'est pour cela que moi, je pense que Catherine Dorion a une obligation morale, bien entendu, qu'elle s'excuse auprès des Québécois parce qu'elle a induit pas mal de monde en erreur. Et moi, c'est clair que je suis dans le total opposé du spectre politique de Steve Fortin, par exemple. Mais quand les opposants,
là, vous êtes d'accord.
On est d'accord, alors il y a quelque chose qui est correct. Là.
Frédéric Bastien, est-ce que ce débat-là porte sur la question de fond ou sur une façon de faire de la politique, au fond, une sorte de façon d'intimider ou de... On a l'impression un peu que c'est... On se met à la place de la ministre Roy, puis c'est vrai que c'est ce qu'elle disait dans la vidéo de Catherine Dorion, franchement, ça paraît mal, mais en même temps, on réalise qu'elle a aussi tenté une réponse là, plus directe à Mme Dorion, donc c'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas su. À sa place, on se sentirait un peu tassé dans le coin, injustement traité, non?
Oui, absolument, mais moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est que Québec solidaire se drape dans la vertu, hein? Eux, ce sont des purs, eux, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui sont là pour le bien, hein? Les autres, c'est des méchants, c'est des gens qui n'ont pas des bons sentiments, qui sont animés par des mauvaises raisons, c'est quelque chose qui revient souvent de la part des solidaires. Et là, qu'est-ce que fait Catherine Dorion? Bien, elle fait de la très petite politique, hein? C'est vraiment des coups bas, des coups malhonnêtes.
Un million de vues sur ce vidéo-là.
Oui, alors qu'elle se drape dans la vertu. Hein, elle est supposée être Madame Vertu incarnée, celle qui dénonce les méchants, les puissants, hein, ceux qui nous manipulent. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle fait exactement cela.
Et donc, vous considérez que ça passe par-dessus le message de fond qui n'est pas complètement faux, comme le dit Steve Fortin. Il y a effectivement
oui,
des députés, il disait faire du temps. Là, ça veut dire occuper de l'espace,
oui,
pour parler pour rien dire.
Oui, mais ça, c'est normal. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand on fait la leçon aux autres, on évite de se placer dans une position d'en recevoir des leçons.
Faire exactement la même chose soi-même.
Voilà, c'est ça, exactement.
Frédéric Lapointe, vous arrivez toujours avec une nuance, vous. Est-ce que c'est difficile cette fois-ci?
Non, absolument pas. Imaginons un instant que le clip de Mme Dorion n'est pas le clip de Mme Dorion, mais un clip d'infomane. On se serait un peu tapé sur les cuisses et on aurait dit « Ah, bien entendu, c'est comme ça que ça se passe à l'Assemblée nationale » et on serait passé à un autre reportage de Jean-René Dufort. Alors, je pense qu'il y a un peu une tempête dans un verre d'eau parce que Mme Dorion...
Mais c'est parce que Jean-René Dufort n'est pas un député, lui, comme
non,
le dit Frédéric Bastien, en l'occurrence, qui se réclame de la vertu et qui est en pleine volonté révolutionnaire.
Oui, mais là, je pense qu'à un moment donné, là, Mme Dorion va avoir fait la preuve qu'elle mérite moins d'attention. Puis on va cesser de parler de ces frasques et on va parler des choses importantes. Comme je vous dis, je pense qu'Infoman aurait fait la chose, qu'on en aurait discuté 5 minutes, parce que c'est Mme Dorion, on accorde beaucoup trop d'importance à l'incident.
Alors, nuance toute relative, mais la nuance est faite tout de même. Revenons un instant sur le Brexit, si vous le voulez bien, ou plutôt sur cette victoire assez éclatante que personne n'avait prédite de Boris Johnson au Royaume-Uni. 364 sièges, une solide majorité. C'était un coup de poker, un coup de dé. Monsieur Johnson cherchait à aller trouver une majorité pour pouvoir faire adopter par le Parlement cet accord de Brexit, justement, survenu avec l'Europe. Il pourra maintenant le faire, là, à moins d'événements qu'on ne peut pas prévoir à ce moment-ci. Fin janvier, donc, l'Europe sort du... l'Europe sort du Royaume-Uni ou l'inverse. Frédéric Bastien, ça doit vous faire plaisir, ça, vous, ce leader plutôt conservateur, populiste, qui met à mal la bien-pensance. On aurait tort de faire le lien avec Donald Trump à cause de la pénurie et de la... C'est pas la même chose, là, quand même. Boris Johnson est un personnage très aimé.
Moi, je pense que Boris Johnson est quelqu'un de beaucoup plus modéré que Donald Trump, qui n'est
instruit
pas dans...
Instruit et tout.
Enfin. Oui, mais qui n'est pas dans les insultes contre les minorités, Non, je pense qu'on est dans deux catégories.
Mais c'est le populiste quand même.
C'est
la réponse populiste, disons.
Appelez ça comme vous voulez, là, parce que populiste a une connotation un peu négative. Mais moi, ce que je vois...
Sans connotation.
Oui, absolument, on peut dire populiste, oui. Mais c'est le débat de ce que, justement, un auteur anglais a appelé les nowhere versus les somewhere, les gens qui sont de quelque part et les gens qui sont de nulle part. Alors, d'un côté, vous avez des gens qui disent « Ah, moi, je suis un citoyen du monde. » Voilà, ce sont des gens très instruits qui peuvent aller travailler à Dubaï en informatique comme ils peuvent travailler à Singapour ou à Bruxelles ou ailleurs.
Qui seraient contre le Brexit.
Et qui sont évidemment contre le Brexit. « Moi, je suis un citoyen du monde. » Mais quand on est un citoyen du monde, on est un citoyen de nulle part. Et par rapport à ça, chez ces gens-là, plusieurs d'entre eux, il y a une condescendance par rapport aux gens qui ont besoin d'être enracinés dans une culture, dans une nation qui a des frontières, qui a des us et coutumes, qui a une langue et qui n'est pas ouverte aux quatre vents de la mondialisation, n'est-ce pas? Des gens qui sont des gangs petits, des gens qui sont moins instruits et qui sont attachés à leur tradition nationale. Et moi, je pense que c'est ça le débat du Brexit. On le retrouve dans
C'est l'immigration, beaucoup, hein, au fond.
C'est beaucoup l'immigration, mais ce n'est pas que l'immigration, c'est les institutions européennes qui se sont substituées au Parlement du peuple. Hein. On avait notre débat tout à l'heure sur les juges non élus, mais c'est un peu le même genre de débat. Enfin, ça recoupe à tout le moins ce débat.
Et parce que l'Europe aussi, c'est un peu cette entité supranationale
avec des bureaucrates qui prennent des décisions qui ne sont pas élues. Et chaque fois que les peuples des différents pays européens se sont exprimés par référendum, plus souvent qu'autrement, ils ont voté contre la supranationalité européenne.
Ils ont fait époque en France, par exemple, en 2005. Le résultat du référendum, au fond, n'a pas été pris en compte.
Voilà, exactement. Et là, il y a un déni de démocratie par ce que le philosophe français Alain Finkielkraut appelle l'overclass. Hein, ces gens qui sont, voilà, c'est ça, ces gens très instruits, tout
les
ça.
Les gens
qui...
au-dessus.
Oui, c'est ça, qui oublient la majorité.
Frédéric Lapointe, on oublie de dire, en parlant de cette victoire de Boris Johnson, que c'est aussi, et c'est pas anodin, le Parti conservateur britannique qui enterre le thatchérisme. Hein? C'est le retour du gouvernement, beaucoup. Là, on fait beaucoup de promesses en santé, notamment. On n'est pas du tout dans le conservatisme à la Thatcher.
Non, je pense que le virage du Parti conservateur vers les petites gens, pour le dire ainsi, est multiforme. Et je pense que ça va enterrer le Parti travailliste pour très longtemps. Et Parti travailliste qui n'a que lui-même à blâmer pour le sort qui lui est réservé maintenant. Si on recule quelques mois en arrière, pourquoi est-ce que la situation a pourri au point de permettre l'émergence d'un Boris Johnson? Bien, ça a pourri parce que l'opposition, M. Corbyn, les travaillistes, ont refusé d'appuyer le gouvernement minoritaire pour qu'un Brexit assorti d'une entente puisse se réaliser.
Et donc, à ce jour, même pendant cette campagne électorale, la position n'était pas claire. Hein? Corbyn disait, je ferai un nouveau référendum, mais moi-même, je ne prends pas position.
Exact. Donc, ils sont dans le « nowhere », pour reprendre l'expression. Et donc, je pense qu'il y a une leçon pour l'ensemble des partis politiques. Lorsque vous avez un adversaire qui est en position de faiblesse, mais qu'il y a une nécessité objective de venir à bout d'un problème, ici, le problème, c'était la négociation avec l'Europe, vous pouvez avoir un certain plaisir à court terme à voir l'autre paralysé, mais vous allez lui donner la chance de muter, de muer en quelque chose qui va venir à bout de votre propre formation politique. Puis je pense que la leçon en Angleterre, c'est ça. Si Theresa May est appuyée par le Labour pour négocier le Brexit, il n'y a pas de Boris Johnson et il n'y a pas de gouvernement majoritaire conservateur.
Je vous écoute parler de traduire cet événement politique en une terrible dégelée pour le Parti travailliste. On peut penser au Parti socialiste français aussi, mais là, j'ai deux péquistes devant moi. Je ne pense pas que j'en ai un troisième, n'est-ce pas, William Corbatley? J'ai envie de faire un parallèle avec le Parti québécois. Voici un autre parti de gouvernement centre-gauche qui s'est un peu perdu dans des positions mitoyennes, vasouilleuses, ouais, notamment sur sa raison d'être. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer au Québec de ça? Pour des péquistes, par exemple.
Je pense que le parallèle ne tient pas parce que ce que Corbyn a fait, c'est précisément ce que le Parti québécois ne ferait pas. Le Parti québécois ne mettrait pas un intérêt partisan à court terme devant devant l'intérêt de la nation et aurait, dans de telles circonstances, très probablement collaboré à la réalisation du Brexit, de la même façon que Jacques Parizeau a offert à Robert Bourassa, il y a très longtemps, sa collaboration dans le cadre de la crise de l'échec du Lac-Mige. Donc, non, le comportement
des travaillistes...
Ou encore
le fait que les péquistes étaient libre-échangistes en général,
oui,
mais on
exact,
comprend que c'était exact. Parce qu'ils étaient souverainistes aussi, c'était une
aussi.
Façon de passer par-dessus le Canada.
Mais non, Corbyn et le Parti travailliste n'ont pas été capables de définir quel était l'intérêt national, ils n'ont pas été capables de mettre l'intérêt national devant leur intérêt partisan, et paradoxalement, c'est ce qui leur a nui par la suite. Ce n'est pas le type de comportement historique ou à venir du Parti québécois.
William Corbatly, là-dessus?
Oui, en fait, il y a deux choses. Rappelons-nous que le problème principal, c'est que est-ce qu'on va sortir de Brexit avec un accord ou sans accord avec l'Europe? Ça, c'est une question très importante.
Mais là, l'accord est prévu, hein? Il ne restait qu'au Parlement
mais parce
à l'entériner.
Parce qu'on voulait, à un moment donné, prolonger un peu juste pour qu'on arrive à un certain accord, mais mm-hmm. là, c'était un point important du débat. Mm-hmm. Mon autre point, c'est que c'est le parti souverainiste écossais, en fait. Parce que ce qui est drôle et ironique, par exemple, c'est ça que comment je veux le qualifier, c'est que je pense 52 élus ont été capables des souverainistes.
L'équivalent du Bloc québécois, si on veut, pour les Écossais
oui,
à Westminster.
Mais presque à 80, je ne sais pas, là, 18% des élus sont des souverainistes. Et là, Boris Johnson dit... Il n'y a pas de question qu'on va faire un autre référendum en Écosse.
Oui, alors, je n'ai pas du tout favorable à la question du référendum.
Alors là, je trouve ça un peu, en fait, contradictoire.
Bien, ça va être un défi, ça va être intéressant à suivre. Frédéric Bastien, revenons à l'enracinement et aux citoyens de somewhere versus nowhere, donc les gens qui sont d'ici plutôt que de nulle part, pour le dire autrement ou en français. Les Canadiens français catholiques
voilà.
de François Legault, ça nous permet de faire le lien avec ça. Alors, évidemment, je rappelle pour nos auditeurs, M. Legault, notre premier ministre, est à la veille ou à la sortie d'une rencontre avec le gouverneur de la Californie la semaine dernière et, dans une discussion à bâton rompu devant les caméras, parle de choses et d'autres qu'ils ont en commun. Alors, oui, est-ce que tu fais du ski nautique? Oui, moi, j'aime la tarte aux pommes. Je ne sais plus ce qu'on disait, mais à un moment donné, M. Legault dit « Je pense qu'on a autre chose en commun. Vous êtes catholique, n'est-ce pas? » L'autre de répondre « Oui, bien sûr. Et vous? » Et Legault dit « Oui, oui, je suis catholique, comme tous les Canadiens français. » Et il n'en fallait pas plus, évidemment, pour que le tout Québec...
C'est terrible!
Nouvelle
c'est affreux!
Oui, bon.
Quelqu'un a dit que le Québec est une terre catholique. Alors, c'est
mais
un
pas
scandale.
Le Québec, hein, les Canadiens français. Oui, c'est important ici, parce qu'on parle donc de la majorité historique.
Oui, historiquement, les Canadiens français sont catholiques. Après ça, il y a des nuances à faire dans ça, parce qu'aujourd'hui, les gens ne pratiquent plus. Mais il reste que, historiquement, je veux dire, la religion catholique a bâti le Québec. Évidemment, il n'y avait pas que des catholiques. Il n'y a pas que des catholiques, mais je veux dire, ça a donné le ton à notre nationalité. Alors,
donc, M. Legault référait à un marqueur identitaire plutôt qu'à une pratique religieuse? Ou...
Ben moi, je pense que oui, parce que M. Legault, parfois, sur ce genre de sujet, il va un peu manquer de nuances, mais ça reste que je pense que l'idée générale est... Je pense que ce qu'il voulait dire et ce que je viens de dire, c'est que le Québec est catholique de tradition, de culture. Ça ne veut pas dire qu'on sait tous que les églises sont très, très peu occupées de nos jours et que, je veux dire, moi, ma grand-mère allait religieusement à la messe, mais que ce n'est plus du tout mon cas, ni le cas de plus grand monde qui font ça.
Religieusement est un bon choix de terme.
Voilà, c'est ça, mais je veux dire, ça reste que... Le Québec est un... oui, une...
Alors, c'était...
Pour moi, c'est une tempête dans un verre d'eau parce que là, il exprime une caractéristique de la majorité francophone. Et ça, là, dès qu'un politicien fait ça, il n'a pas le droit de dire ça. C'est comme si, dès qu'on parle de la majorité, là, il faut absolument pas mettre l'emphase là-dessus. C'est pas correct. C'est
parce
comme
que
si,
ça
c'est
exclut.
Pas... Ouais, voilà, c'est censé exclure parce que c'est voilà, c'est ceci,
mais
c'est cela.
Alors, on disait, oui, mais bon, il est le premier ministre de tous les Québécois. Et de surcroît, il parle de laïcité continuellement. Et le voici qu'il ramène l'identité mais justement pas québécoise, canadienne-française dans ce cas-ci, à la question du catholicisme, est-ce qu'il n'y a pas, ben, pas une faute? Là,
qu'est-ce qui définissait les Canadiens-français? C'était des francophones catholiques. On disait aussi agriculteurs. Alors, c'est dans notre tradition, je veux dire, on ne peut pas nier ça. Donc, à mon sens, je veux dire, moi, je pense que c'est ce que M. Legault il aurait pu être un peu plus nuancé, mais je veux dire, ça reste que... Je trouve ça incroyable qu'on lui tombe dessus à bras raccourcis pour cette raison.
Est-ce que c'est une bourde ou ça... Ou comme à chaque fois qu'une certaine classe médiatique parle d'une bourde, ça va plutôt profiter à M. Legault parce que ça le montre en connivence avec... Ça établit un lien entre lui et la majorité francophone.
Non, c'est pas une bourde, là. De la même façon qu'un président ou un premier ministre belge pourrait parler des Wallons en déclinant leur caractéristiques sociologiques, on trouverait rien à redire. Il n'y a rien à redire sur le fait qu'un premier ministre qui s'adonne à incarner l'État, le seul État dans lequel les gens d'origine canadienne-française sont majoritaires, ben oui, il a certainement le droit d'en parler, et lui-même, parce qu'il référait à lui-même, et lui-même se définissant comme d'origine canadienne-française, ben, il a tout le loisir d'en discuter avec un représentant de la Californie, lui-même d'origine irlandaise, catholique. Il aurait pu référer d'ailleurs au fait qu'au Québec, on fait des très grandes parades de la Saint-Patrick, parce que ça donne qu'on en a accueilli quelques dizaines de milliers il y a fort longtemps. Alors, il aurait pu très bien référé à la portion du Québec qui est d'origine irlandaise et on n'aurait rien trouvé à redire. D'ailleurs, hein, la CBC n'aurait pas parlé de ça plutôt que de la bourse du carbone. Et donc, ce que l'incident révèle, effectivement, c'est la difficulté de situer la référence à une majorité historique, sociologique, qui est d'origine canadienne-française. Et je pense qu'on a quelque chose de pas résolu dans la discussion publique au Québec ou même dans nos vies au sujet de nos identités.
Elvis Gratton arrive, là. Hein?
Oui, Elvis Gratton arrive.
Canadien-français, franco,
exactement.
Québécois, nord-américain.
Je pense que le Québec n'est pas à proprement parler canadien-français. Je pense qu'il y a une majorité au Québec qui est canadienne-française et que s'il y a une chose qui nous définit, c'est le fait qu'on est pogné à vivre dans un territoire où il y a une majorité canadienne-française, qu'on en soit ou pas, ou que ça nous plaise ou non. Mais il y en a à qui ça semble ne pas plaire beaucoup.
Est-ce que ça vous plaît, vous, William Corbatley? Alors vous êtes né ailleurs.
Oui.
Certains pouvaient s'en douter probablement.
Bon, sur la planète.
Comment vous voyez ça? Vous vous êtes intégré rapidement d'ailleurs au Québec. Oui. Est-ce que vous vous considérez Québécois ou Canadien-Français? Et cette histoire de catholicisme, qu'est-ce que ça vous
inspire? Je ne veux pas rentrer là-dedans. Bien sûr, je suis Québécois, je suis Canadien, Écoute, là...
Vous ne pourriez pas vous dire Canadien-Français, j'imagine. Ça réfère à quelque chose de plus enraciné.
Bon, ça dépend le contexte. Est-ce qu'au niveau historique, oui, je ne suis pas un Canadien-Français.
Vous êtes un Canadien qui parle français.
C'est ça. mais ça, le problème avec ce que M. Legault a dit, ce n'est pas ça, là. Pour moi, c'est tout le contexte que la CAQ présentement incarne.
La laïcité.
La laïcité et tout ça. En plus, toute la clientèle de la CAQ, c'est qu'on a fait sortir l'Église de la société ou bien de la politique. Et là, il vient de ramener la religion dans la politique. En plus, alors c'est ça, ici je donne...
Mais pardon quand même, oui. Bon, il parlait de sa personne, il parlait de lui,
il dit oui, bon, ben tout. Moi... Le mot tout, je ne sais pas sur quel degré le gouverneur de la Californie est informé sur sa référence historique sociologique, mais juste pour terminer, oui. Je recommande deux articles ou deux billets, là. Une pour Mathieu Bocoté et l'autre pour Judith Lussier. Quand on parle spécifiquement de ça, c'est le total opposé l'un et l'autre. J'invite les gens à les lire et en faire le constat.
Ils ont écrit tous les deux là-dessus. Oui, j'imagine que c'est assez opposé. En terminant sur tout ça, Frédéric Bastien, donc on attend votre annonce dans laquelle on n'a aucune espèce d'idée de ce que vous direz sur la potentielle chefferie du Parti québécois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
Et puis, joyeuse fête à vous.
Merci.
Solstice, Noël.
Joyeux Noël à tout le monde.
Joyeux Noël. Voilà. Merci. Joyeux Noël.
À Frédéric Lapointe aussi. Oui. Merci d'avoir été là. Merci, William Corbatley. Joyeuse fête. Et à tous nos auditeurs également, merci d'être avec nous à chaque semaine comme ça. Et on salue et on remercie Frédéric Bérard, Steve Fortin et Daniel Fortin également, sans lien de parenté, à la mise en onde. Merci, à la prochaine.